Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Terre d'Alliance.
Sur France, France Inter.
Con Alexandre Hérault.
On ne dira jamais assez combien les alliances françaises de par le monde, le travail qu'elles font. C'est dommage qu'on n'en parle pas plus. C'est très dommage parce qu'elles font un travail pour le français, pour l'enseignement de la langue française par exemple, qui est admirable. Et sur la francophonie, cette francophonie dont on parle tant et qu'on défend si mal, ils font un travail formidable et que je trouve n'est jamais assez salué au fond.
Ah, comment imaginer meilleure ambassadrice qu'Ariane Mnouchkine pour évoquer le rôle des alliances françaises, cet incroyable outil de diplomatie culturelle que la France possède. Un rôle et une fonction que nous avons commencé à étudier hier, en compagnie de celui qui en est le nouveau président, Jérôme Clément, l'ancien patron d'Arte, qui a publié récemment L'urgence culturelle chez Grasset, un indispensable livre contre la fin des ambitions nationales en matière de politique culturelle. Et si je souligne cette actualité en début de notre seconde émission de ce premier week-end passé en Terre d'Alliance, au siège parisien de celle-ci, le 101 boulevard Raspail, dans le très chic 6e arrondissement, c'est que nous allons principalement nous entretenir aujourd'hui de cela, avec notre invité, de ce combat-là. Vous, qui êtes donc à la tête d'un très beau réseau dont nous allons aujourd'hui, après en avoir évoqué hier l'histoire, découvrir le fonctionnement et les hommes, un fonctionnement qui n'est pas si simple, mais que j'ai eu la chance de découvrir en me rendant visiter 8 des plus emblématiques des quelques 800 alliances que possède le réseau. Bonjour, Jérôme Clément.
Bonjour.
Vous souvenez comment nous nous sommes partagés le monde dans votre bureau avec votre secrétaire général Bertrand Commelin, sous la carte du globe où sont figurées les implantations des quelques 800 alliances du réseau, le tout dans ce bureau du 7e étage du boulevard Raspail qui aujourd'hui se refait une beauté avec cette vue, l'une des plus superbes sur Paris qu'il est donné de voir. Vous vous souvenez comment ça a commencé?
Ben oui, effectivement, on était dans le bureau de Bertrand Commelin, notre secrétaire général, avec cette immense carte dans laquelle on rêve de voir, d'aller dans tous ces pays qu'on connaît pas, et on a discuté, et si vous alliez là, et...
Comment faire ce choix? Pourquoi comment faire ce là choix, plus
pourquoi,
que...
Oui. Ben, il y avait la volonté d'abord d'aller dans tous les continents, d'avoir une vision qui soit un peu générale, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, il fallait couvrir à peu près tout. Et puis il y avait des pays qui étaient plus ou moins accessibles.
Donc on a évité l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ces endroits que pourtant j'aurais aimé sillonner.
Bah oui, c'est surtout en Australie. L'alliance de Melbourne est une des premières aussi, 1890. Donc c'était tout à fait important.
Mais on s'est dit que ça allait faire des jaloux aussi.
Ça allait faire des jaloux, oui, bien sûr.
Des déçus, non, en tout cas.
Le problème de distance, et puis il y a aussi le problème politique. Il y a des pays dans lesquels c'est très difficile d'avoir des visas pour les journalistes. On l'a vu, dans un certain nombre de pays où vous vouliez aller, ça n'a pas été possible.
Donc on a évité la Chine.
On a évité la Chine. Cuba,
ça a pris trop de temps.
Ça a pris trop de temps. Enfin, il y a des pays dans lesquels...
Le Nigeria, ça a été compliqué, le billet s'est annulé.
Voilà, donc il y a toutes ces contraintes de voyage, de temps, d'organisation. On voulait aussi montrer des grandes et des petites, enfin des historiques et des récentes. Enfin, comme on a tout en magasin.
D'ailleurs, c'est sûr, il y a même un livre qui les recense. Là, c'est un livre que vous aviez publié, vous n'étiez pas encore président.
Mais enfin, c'est le travail, je tiens à le souligner, de Jean-Claude Jacques.
C'est ça.
Qui était le précédent secrétaire général, avant Bertrand Commelin, et qui a fait avec ce livre un très beau travail auquel il faut rendre hommage.
Sur les 130 ans de l'Alliance, donc toute l'histoire qu'on a évoquée, un peu survolée hier, et puis aujourd'hui, tous ces hommes qui les font, ces lieux qui sont étonnants, ces pays surprenants, des endroits improbables. Je pense que d'ailleurs, nous avons visité que 8 d'entre elles, donc ça a été douloureux aussi. Et on s'est dit, peut-être qu'on allait, que la présence d'un micro à l'intérieur de ce que sont ces bulles francophones pouvait peut-être aussi être dérangeant, perturbant, non ?
Bien sûr, et en même temps, moi je pense qu'il faut être transparent. Voilà, on est un organisme public, une fondation d'intérêt général. On n'a absolument rien à cacher. Et je crois que c'est très intéressant. J'espère que ça l'a été pour vous, Alexandre, parce que ça montre aussi la diversité, la richesse, les conflits parfois, les tensions, tout ce qui fait une société humaine.
Moi, ce que j'espère, c'est que cela sera pour les auditeurs, qui vont découvrir des hommes qui là-bas. Alors, c'est évidemment évidemment, on a commencé à l'évoquer hier, et c'est la chose la plus surprenante, la plus attachante aussi, se démène pour, alors pas uniquement que le français soit appris, mais pour que des événements culturels se passent, se déroulent dans les meilleures des conditions, qu'il y ait donc ce second rôle-là qu'on oublie un peu, qui est souvent dévolu simplement aux instituts français, qui sont vos alliés parfois, mais il y a ce rôle-là qui est passionnant.
Ouais, qui est fondamental. On parlait tout à l'heure d'Australie, où vous n'avez pas pu aller. Le festival de cinéma en Australie, organisé par l'Alliance française, est le plus important du pays. Il a lieu en avril, et le festival de cinéma en Australie, c'est l'Alliance française. C'est la même chose, d'ailleurs, il y en a un autre à Cuba, qui est extrêmement important aussi. Là, je parle de cinéma, mais enfin, évidemment, il y a des événements culturels tout le temps. La musique, le théâtre.
Alors, nous sommes beaucoup appuyés pour cela, dans les reportages, les documentaires qui vont suivre à partir du week-end prochain, bien sûr.
Oui, parce que vous avez été à Pondichéry, à Busan.
Alors là, dans des endroits étonnants.
À Odessa.
Oui, un endroit que vous connaissez bien. D'ailleurs, on va, toute cette heure, entendre quelques-uns de ces personnages que j'ai pu rencontrer, qui tous vont nous poser des questions, vous poser des questions. Profiter de ce micro qui se tendait quand j'étais là-bas pour comprendre leur fonctionnement, l'importance, pour voir aussi à quel point ce casting était étonnant de cette bulle des fois francophone dans des endroits qui ne le sont pas du tout, qui peuvent être des villes où le français est absent, vous évoquiez Busan en Corée du Sud.
Il y a des endroits, moi je suis sidéré, je suis allé à Johannesburg à la fin de l'année dernière pour réunir l'ensemble des alliances françaises d'Afrique. Et il y avait là un homme jeune, ce sont d'ailleurs des dirigeants, ce sont souvent des hommes et des femmes qui ont la quarantaine, parfois moins, parfois un peu plus. Mais enfin,
c'est Jean Bourdin que vous évoquez là.
Dans la rencontre avec Jean Bourdin, qui est le délégué général d'Afrique du Sud, il y avait un directeur de l'Alliance au Lesotho. Alors, les autos, moi déjà, j'avais du mal à les situer sur une carte. En fait, c'est une enclave à l'intérieur de l'Afrique du Sud. J'ai discuté avec lui, j'ai dîné un soir avec lui. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites les autos? Quel est l'intérêt d'apprendre le français pour les habitants du les autos? Et alors, il est le seul français. Il y a une petite alliance, mais dans laquelle il organise des événements, des expositions de photos. La reine, puisque c'est un roi du Lesotho, apprend le français à l'Alliance française du Lesotho. Donc il y a aussi tout ça, il y a tous ces aspects totalement invraisemblables. Il était avant, et ça m'a beaucoup amusé, parce qu'il était directeur d'affaires culturelles, je crois, dans une ville en Sologne, et il m'a dit qu'il trouvait que la Sologne était beaucoup plus exotique que le Lesotho. La population des chasseurs lui paraît encore plus étrange que celle...
Je peux vous le confirmer, j'y suis né.
Lesotho. Ah bon, là, moi, je ne connais pas bien, mais ça m'a amusé de voir ça. Et ce garçon était venu dans cet endroit parce que il avait commencé à travailler aux archives à Nantes, aux archives des affaires étrangères à Nantes, et ça l'avait fait rêver, toutes ces archives. Et il a demandé à partir à l'étranger.
Comme nous, on va faire ce tour du monde, on va écouter là, c'est notre première pause musicale, Jérôme Clément, Pierre Barou, qui lui aussi le faisait, ce tour du monde, en 1962.
Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de map monde et de toujours le regretter. Si c'était comme dans les chansons, une tendre amie m'attendrait sans cesse. J'en ai trois ou quatre, mais passons, puisque j'ai perdu leur nom, leur adresse. Lorsque je reviens chaque fois, je fais un tour ou deux ou trois, et puis je dis salut Paris, moi je m'en vais pour mieux rêver de toi. Quand on a fait le tour du monde, on n'a plus qu'à recommencer. Fallait pas entrer dans la ronde, il ne fallait pas commencer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier un petit coin de map monde et de toujours le regretter. Mais quand on a fait mille chansons sans une ombre amie pour prêter l'oreille, lorsqu'on a sillonné l'horizon en se partageant tout seul des merveilles, on voudrait bien qu'au fond de soi dorme une image à qui parfois on puisse offrir tous ses délires, ainsi lui dire j'ai tant besoin de toi. Quand on a fait le tour du monde, faut bien finir par s'arrêter. Quand la tendresse au cœur inonde, tant que l'on voudrait s'y noyer. Car lorsqu'on fait le tour du monde, on a toujours peur d'oublier celle qui peut fermer la ronde. Et de toujours la regretter.
Retour en 2016 dans nos studios, mais là vous l'entendez peut-être, Jérôme Clément, notre tour du monde va commencer, ça sera la semaine prochaine, à la même heure, samedi et dimanche, tout l'été, on va les accompagner dans des bains de francophonie et de francophilie, nos auditeurs, grâce à l'Alliance française. Elle va commencer à Pondichéry, donc Pondy, c'est comme ça qu'on l'appelle souvent, vous les initiez. Ça a un parfum de nostalgie, ça, Jérôme Clément, diablement. D'ailleurs, c'est redoutable. Et puis, pour vous, c'est presque un danger, non, ce parfum de nostalgie coloniale?
Oh oui, enfin, les cinq comptoirs de l'Inde, donc Guy Béard avait fait une très belle chanson. Pondichéry, Chandernagore, Yanaon, Karikal et Mahé. Moi, je me souviens, elle avait le Pondichéry facile. Voilà, donc je me souviens bien de cette chanson. Alors, oui, enfin, c'était des comptoirs. L'Alliance française de Pondichéry est une des plus anciennes. Elle a été créée en 1889.
On les appelle les pionnières, c'est celle-là.
Voilà, c'est les pionnières, oui, effectivement. Sont tout compte, créées avant 1900. Il y en a quand même pas mal. Hein. Et elle est toujours très vivante. C'est un petit bout de France, comme ça, perdu en Inde, qui est resté aussi bien dans l'architecture des bâtiments que dans la population et dans la langue. Et il y a je crois 1500 ou 1400 apprenants français.
Oui, bon an, mal an, oui.
Ce qui est pas si mal. Non, Pondichéry, nostalgie, oui, bah, la France a été ce qu'elle a été, ça a été un pays colonial, ça a été un pays dans lequel il y a eu quand même beaucoup d'explorateurs, il y a une longue histoire, il faut l'assumer. Maintenant, la page est tournée, on fait autre chose. En revanche, on se développe en Inde d'une façon très intéressante. Il y a 13 alliances françaises en Inde, ce qui est pas mal. Et on va en créer deux nouvelles cette année, une à Bénarès et une à Lucknow. Et il y a une vraie demande, il y a une vraie possibilité de se développer. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont besoin de main-d'œuvre qui parle le français, qui comprend le français. Il y a une demande d'une classe moyenne indienne pour apprendre le français. Voilà, c'est un pays, on le sait pas du tout, mais dans lequel les alliances font un travail absolument formidable. 13 alliances, 15 bientôt.
Et vous avez entendu tout à l'heure Ariane Mouchkine, petite phrase sur l'importance pour elle du rôle des alliances françaises.
Formidable Ariane Mouchkine.
Et qui était à Pondichéry grâce à l'Alliance française. Ça a été une opération incroyable qu'on découvrira la semaine prochaine, exactement dimanche prochain, si vous êtes avec nous, parmi nos auditeurs, Jérôme Clément. Pour l'instant, je vous propose d'écouter sur sa définition de sa fonction à Olivier Litvine, qui dirige vaillamment cette alliance splendide de Pondichéry.
C'est le parcours pas du combattant, mais le parcours du directeur d'alliance que je suis. On a tous des parcours très différents, et c'est peut-être ça aussi la richesse de l'Alliance française, c'est d'accueillir en son sein des directeurs qui ont des parcours différents, mais une expérience de vie qui, en règle générale, aussi entre la réflexion, le travail intellectuel, mais aussi un amour de la réalité, du réel. On a quand même les mains dans le cambouis. Pour parler très vulgairement, nous sommes les OS de l'action culturelle française à l'étranger. Je suis fier d'être OS. Et je pense que sans OS, l'usine ne peut pas fonctionner. Voilà.
Mais alors, à propos des choses qui pourraient fâcher cette visite présidentielle de début janvier, François Hollande et ses mirages et ses rafales qui vont avoir du mal à se vendre à l'Inde et qui font les titres des journaux. Certainement, il y a d'autres choses dans les bagages présidentiels. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au fil des années, justement, cet outil fabuleux de ce qu'on appelle le soft power de diplomatie culturelle que représente cette incroyable ONG, la plus grande du monde que sont les alliances françaises, semble délaissé par les institutions, par le pouvoir, tout simplement.
Je vais juste reprendre le slogan de la fondation, la plus grande ONG culturelle au monde. qui n'est pas sans mérite, hein, mais ici en Inde et en Asie du Sud en général, les ONG ont très mauvaise presse. Donc ça ne saurait jamais être un slogan. Parce que si on veut vraiment se couper l'herbe sur le pied, on n'a qu'à se présenter comme ONG. Et là, on plie bagage sous les 48 heures. Donc oui, malheureusement, l'État se retire. Les subventions fondent comme neige au soleil de Pondichéry. Elles atteignent des niveaux qui sont ridicules, qui d'ailleurs sont presque offensants pour nos conseils d'administration, qui sont des conseils d'administration locaux, qui ont vraiment l'impression aussi qu'ils sont lâchés. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins. Quel avenir pour l'Alliance de Pondichéry? Comment arriver à trouver des financements pérennes? On nous coupe les vivres et il faut en trouver ailleurs et on a besoin de fonctionner. On peut toujours réduire la valeur sur le volet culturel, mais c'est une alliance qui a quand même une réputation et une fonction d'animation culturelle ici à Pondichéry où il n'y a strictement rien d'autre. Enfin, je veux dire, il faut quand même être très honnête. Le reste, c'est du niveau du patronage. Donc je crois qu'il faut sortir de la conception étroite de la diplomatie économique pour y réinjecter la dimension culturelle. Ça me semble fondamental. Parce qu'il se peut fort bien, comme vous l'avez dit, c'est un lapsus que je trouve tout à fait justifié, que ces rafales soient des mirages.
Jérôme Clément, Olivier Litvin, notre directeur de l'Alliance de Pondichéry, semble avoir tout lu de l'urgence culturelle, votre ouvrage, votre charge sur les politiques gouvernementales en matière culturelle.
Non, mais attendez. D'abord, moi je ne peux pas laisser dire que les pouvoirs publics et l'État se désintéressent de l'Alliance française. C'est pas exact. J'ai les meilleurs rapports avec le ministère des Affaires étrangères. Je ne dis pas ça par simple courtoisie ou parce que je suis un obligé, etc. Je suis un homme libre et je dis ce que je pense. Mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une vraie conscience de l'intérêt que se représente ce réseau. Il y a un vrai soutien qui est accordé par le ministère des Affaires étrangères à l'Alliance française, qui nous donne quand même l'équivalent de 35 millions par an, avec 300 ou un peu moins, 280, je crois, professeurs. Alors certes, ça a diminué.
Voilà.
Mais on peut pas dire que c'est... Enfin, franchement, je tiens à le dire parce que j'ai les meilleurs rapports et une grande compréhension de l'action et un grand soutien sur ce que je cherche à entreprendre en ce moment, qui est le plan Alliance 2020, c'est-à-dire la modernisation et le développement du réseau. Tout le monde est conscient de l'intérêt que ça représente. En revanche, c'est vrai que d'une façon générale, il y a une diminution des moyens pour le secteur culturel, mais pas seulement, c'est vrai, mais de toutes les finances de l'État, et que dans le domaine des centres culturels, de l'Institut français aussi, des lycées français, qui sont un réseau extrêmement puissant également, qui sont
beaucoup plus. Il y a presque 700 lycées français à l'étranger.
Oui, c'est énorme. Il y a des diminutions, et ces diminutions sont, à mon avis, tout à fait dangereuses.
Il y a des instituts français qui ferment.
Et fâcheuses. Oui, alors.
Ou qui sont menacés.
Oui, et ça, je pense que c'est une erreur de diminuer les moyens du secteur culturel, parce que c'est un élément majeur de notre rayonnement, y compris d'ailleurs sur le plan économique.
Mais quand vous le dites ça, Jérôme Clément, français, dans votre livre. Vous dites, il y a une époque, les tyrans sortaient leurs revolvers quand on parlait de culture. Aujourd'hui, ils sortent simplement leurs calculettes.
Oui. Oui, c'est vrai, parce que je pense que c'est un signe de l'époque. Moi, je dis, c'est la thèse de mon livre, une des thèses principales en tout cas, c'est de dire qu'on accorde beaucoup trop, enfin, on est obsédé par l'économie et par la finance, et on n'accorde pas assez de place à la culture et au rayonnement et à l'échange humain, justement. Ce qui fait la richesse, on le disait, c'est les échanges entre les hommes. Elle se fait en particulier sur leur façon d'être, de penser, leurs différences. La richesse vient de la diversité, et voilà, il faut absolument en faire un élément majeur de la politique. Là-dessus, je ne vais pas commencer parce que je suis intarissable et j'ai eu l'occasion d'en parler dans d'autres émissions, mais dans le domaine international, qui est le nôtre, il faut conserver à la France les moyens de son action à l'étranger. On voit aujourd'hui les Allemands, les Chinois augmenter leurs moyens d'une façon considérable pour être présents en Afrique, pour se développer dans les pays qui vont se développer économiquement et démographiquement. Ce n'est pas le moment de lâcher.
Alors, à propos d'Afrique, voilà ce qu'on va entendre.
Terre d'Alliance.
Diamiarabani. France Inter. En Terre d'Alliance, Miarakamni Alexandre Rosa, comme Zoftonzo Totanari.
Un voyage planétaire au sein des Alliances françaises.
Magazine.
Notre avant-dernière étape au mois d'août, mais nous n'en sommes pas là, ça sera Madagascar, Jérôme Clément. Alors on continue ce voyage planétaire estival au sein de l'institution que vous présidez. On est dans l'île Rouge. C'est d'ailleurs
un rouage essentiel pour la francophonie, pour le maintien du français là-bas. C'est l'endroit où on trouve le plus grand nombre d'apprenants à Madagascar.
Oui, Madagascar est une situation très particulière en Afrique. Il y a 29 alliances françaises à Madagascar et on peut dire que le réseau des alliances françaises à Madagascar structure l'enseignement dans l'île. Malheureusement, c'est un pays très pauvre dans lequel il y a d'énormes difficultés d'infrastructure et le système éducatif n'est pas en très bon état.
Et c'est moins qu'on puisse dire. Hein, ouais. 92% de la population vit avec moins de 2 euros. Voilà. Un des pays les plus pauvres donc de la planète. Le rapport avec le français est compliqué, extrêmement ambivalent à Madagascar, ancienne colonie.
Bien sûr, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays d'anciennes colonies dans lesquels le rapport est compliqué. En Algérie, c'est le cas par exemple. Il n'y a pas d'alliance française en Algérie parce que les Algériens ne veulent pas.
Et pourquoi on ne retrouve pas des alliances françaises en Afrique francophone très fréquemment ?
Il y en a au Sénégal, il y en a eu dans un certain nombre de pays, à Mopti par exemple, même au Mali, je crois que d'abord il y a beaucoup de centres culturels, donc là c'est un peu un partage entre les organismes d'État et les associations différentes que sont les alliances françaises, et donc on n'est pas dans un certain nombre de pays pour des raisons historiques, il n'y a pas d'autres raisons que les raisons historiques. Mais ça, la question peut se poser, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des centres culturels qui ferment, et ça coûte beaucoup moins cher de faire une alliance française. Et c'est vrai que l'UNICEF Affaires étrangères a tendance, et du développement international, à demander de plus en plus, ou en tout cas dans un certain nombre de cas, à l'alliance française de se substituer au centre culturel. C'est le cas à Amsterdam, par exemple, où on vend la Maison des Cartes, et on demande à l'alliance française de remplacer. Et c'était le cas en Ouzbékistan, à Tachkent, dont je parlais tout à l'heure. Il y a d'autres pays où la question se pose. Et on voit que le retrait de l'État, évidemment, peut avoir des conséquences sur le développement des alliances françaises, des conséquences où on serait amené à jouer ce rôle. À Madagascar, le réseau est très important, très influent, évidemment avec un rapport ambigu avec la France, mais malgré tout indispensable, parce que sinon, s'il n'y a pas une langue de communication, ils s'en sortiront encore moins.
Et s'il y en a une qui connaît bien de personnalité ce que représentent les alliances françaises à Madagascar, c'est son Excellence l'ambassadeur de France, Véronique Voulan-Hennini, qui nous expliquait pour elle ce qu'était la fonction, justement, si on restait auprès de cette fonction, d'un directeur d'alliance.
Alors, un directeur d'alliance, c'est là pour accompagner une alliance, c'est-à-dire pour accompagner des Malgaches dans l'enseignement et dans la manifestation culturelle. Le directeur d'alliance, il représente pas la France. Il est là pour aider un conseil d'administration. Donc, il n'est pas dans cette ambiguïté-là. Il est là pour le français. Il est là pour montrer la richesse de cette francophonie. Et c'est finalement un rôle que les Malgaches s'attendent à le voir jouer et que la plupart du temps, ils jouent. Je reçois ici des jeunes VI, des jeunes gens qui partent comme directeurs d'alliance dans des endroits très improbables.
Un VI, c'est ?
Un VI, c'est un volontaire international. Donc, c'est des jeunes qui font du volontariat et qui ont choisi d'aller diriger des alliances dans des villes parfois très éloignées de la capitale, où ils sont totalement immergés dans le tissu social local. Et souvent, ils me racontent des expériences extraordinaires. Mais ils sont pas perçus comme la France du passé, comme la France coloniale. Ce sont des jeunes gens qui viennent se mettre au service de la population, se mettre au service de la francophonie, et ils sont en général très bien accepté. Les alliances françaises dans le monde font un extraordinaire travail. C'est à nous de faire en sorte qu'elle soit perçue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un réseau au service du français et de la culture francophone.
Et pour que ce réseau fonctionne, on l'a évoqué ensemble, eh bien, il faut des hommes. Et ça, Jérôme Clément, vous connaissez la richesse de ceux qui sont à la direction, mais aussi les bénévoles. On a l'impression, souvent, quand on les interroge, qu'ils sont presque missionnés, qu'il y a quelque chose qui les habite. Vous avez remarqué ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait Hier, dans l'émission de samedi, ce sont vraiment des vrais militants. Il y a beaucoup de bénévoles parce qu'il y a beaucoup de générosité dans la démarche qui consiste à aller dans des pays lointains, dans des endroits où il n'y a aucune communication, où c'est très difficile, aller s'investir pour aider la population. Donc il y a beaucoup de générosité, de dévouement, et c'est très réconfortant. Moi, je suis très admirateur de tous ces directeurs d'alliance, de tous ces personnels. Il y a plus de 25 000, je crois, à peu près, professeurs et personnels administratifs.
Ils travaillent dans l'ombre.
Les bénévoles. Oui.
C'est pour
oui.
ça que la présence oui. du micro était intéressante mais aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait l'impression qu'on éclatait la bulle dans laquelle ils étaient un peu trop souvent cantonnés, Jérôme Clément.
Chaque fois, je vois des directeurs ou des responsables de médiathèques ou de bibliothèques, d'ailleurs, qui travaillent aussi avec Bibliothèques sans frontières, dirigés par Patrick Veil, qui font un énorme boulot. Et je les vois, mais faire un travail vraiment d'assistant, de bénévolat, d'engagement social et culturel au service, certes, de la langue française, mais au service de l'éducation et de l'apprentissage pour des jeunes enfants, pour des adultes qui sont illettrés, qui parlent pas bien, qui ont besoin de s'instruire. Et ils sont là pour ça. Donc, je suis admiratif et ça me réconforte. Ça me fait du bien. Ça rend optimiste, justement, sur ces nouvelles générations qui ont toujours un grand cœur, une grande générosité et une grande volonté et aussi un grand courage. Et ça, je trouve ça formidable.
Et alors proposer.
C'est grâce à eux que tout ça se fait.
Ces programmes, oui, qui se font d'ailleurs en ce moment, qui viennent de s'ouvrir là avec ce premier week-end, ce tour du monde estival au sein du réseau des Alliances Françaises. Proposer ça à nos auditeurs, c'est faire connaître finalement. D'abord, on en a parlé hier, les Alliances ne sont peut-être pas suffisamment connues France, Jérôme Clément, plus à l'étranger. Mais faire connaître aussi cette action culturelle qui souvent s'ignore.
Oui, bien sûr, on parle toujours de Médecins sans frontières. Là, on fait un travail formidable. Mais là, l'Alliance Française, c'est pas la même cause, hein, c'est pas la médecine, mais c'est ils soignent les âmes quand même. Soigner les âmes, c'est une belle cause quand même d'aider à parler une langue, d'apprendre une culture et d'apprendre une culture. En apprenant la culture des autres, on apprend la sienne aussi. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Et voilà, donc moi je leur tire mon chapeau, franchement.
Juste quand j'étais sur la grande île, donc à Madagascar, on n'a pas cessé là-bas de me parler d'un groupe qu'on va vous faire écouter et qui est très populaire ici aussi parce que il s'agit d'une playlist inter et c'est malgache, ça s'appelle The Dizzy Brains. On s'accroche, ça dépote. Nonabe, nonabe waza, man man erie. Tad love lavza non a pe dans si pa we toi il en ren ke liane an impulso sena non a pe non a pe waza.
Terre, terre d'alliance.
Terre d'alliance française à Busan sur France Inter.
Un voyage planétaire au sein des alliances françaises.
Avec toutes ces alliances françaises, Alexandre Hérault se promène.
Hello.
Voilà, c'est ce genre d'ambiance aussi, en voyageant au sein des alliances françaises et dans les territoires et les empreintes francophones des alliances françaises, dans ces villes étonnantes, que j'ai pu découvrir, vivre et donc faire partager aux auditeurs. Poussan, je ne sais plus, dans trois semaines, on sera à Poussan. Poussan, Jérôme Clément, vous avez conscience que personne ne connaît ici en France, à part les amateurs de cinéma.
Voilà, à part les amateurs de cinéma, parce qu'il y a un grand festival de cinéma qui est de plus en plus important, qui compte beaucoup en Asie. Mais évidemment, la plupart des gens ne connaissent pas Poussan.
C'est la Marseille sud-coréenne. C'est la ville du sud.
Oui.
Ils ne sont pas pareils que les habitants de la capitale Séoul.
Je ne connais pas, j'y suis jamais allé, donc je ne connais pas du tout cette.
Vous allez découvrir, ils sont assez fous, ces Coréens, ils nous disent des choses étonnantes. Et à Poussan, un jeune directeur de l'Alliance, Alexandre Labruf, pour ne pas le nommer, m'a fait rencontrer tous ceux qui animent justement la francophonie là-bas, à commencer par le professeur du département français de l'université de Poussan nationale, Kim Jong-gi.
La globalisation ici en Corée est toujours un peu américanisation. Voilà, c'est pour ça que vis-à-vis du français, hein, ça c'est un peu pire, n'est-ce pas?
Donc on n'enseigne pas plus le français, bien au contraire, les départements de français ferment au sein des universités, que ce soit ici à Poussan ou que ce soit là-haut sur la capitale.
Oh oui. Et on compte tout le temps la rentabilité. C'est pour ça qu'on ferme des départements français à beaucoup d'universités.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les Coréens, apprendre le français n'est plus une valeur, n'est plus un bonus.
Voilà, ça c'est on considère d'apprendre le français comme une chose de quelque chose de chic, quoi. C'est pour ça que presque tout le monde demande tout le temps l'anglais, le japonais ou le chinois. C'est pour ça que le français devient pas vraiment rentable vis-à-vis du plan économique, quoi.
C'est affreux, ça.
Ah ben voilà, vous venez de réagir tout de suite.
Oui, c'est affreux,
à
parce
chaud,
que
Jérôme
voilà, la rentabilité, moi, voilà, évidemment, la rentabilité, mais...
Oui, mais la globalisation,
juger,
la mondialisation, l'uniformisation...
de toutes les actions, de tout ce qu'on fait en fonction de la rentabilité, moi, ça me rend malade d'entendre ça, parce que c'est pas... Heureusement qu'il y a des gens comme lui qui apprennent le français parce que c'est chic. Alors ça, c'est pas mal comme expression.
Non, lui, en tant que professeur et directeur du département, il se rend compte que le français est appris, peut-être pas pour les bonnes raisons, parce que c'est chic, et ça reviendra souvent dans cet itinéraire planétaire qu'on va faire.
Non, mais c'est vrai que la France et Paris a une image de qualité, les industries du luxe, l'histoire, voilà, on parlait au début de l'émission hier après-midi, de la patrie des droits de l'homme. Enfin, je dirais que le français s'est développé en Amérique latine à cause de ça, il y a d'autres régions, et partout quand même aussi, parce que c'est un pays de culture, d'architecture.
Mais le déclin du français est indéniable. Vous le notez dans L'Urgence culturelle, votre livre qui vient de paraître.
Non, mais oui, il est indéniable. Il est indéniable si on se réfère à l'époque, comme disait Marc Fumaroli, brillant académicien, où l'Europe, quand l'Europe parlait français. Bon, alors effectivement, on ne parle plus français dans la langue diplomatique la plupart du temps ou dans les échanges internationaux, etc.
Mais en termes d'influence, ça reste la deuxième langue.
En termes d'influence, c'est extrêmement important. Ça reste la deuxième langue, oui, absolument. C'est la deuxième langue en termes d'influence. Alors, c'est compliqué de mesurer l'influence, parce qu'évidemment, il y a plus d'individus qui parlent le mandarin que le français. Mais ça, c'est un effet, ils le parlent en Chine, évidemment. Mais en termes d'influence, le français reste la deuxième langue, si on croise un certain nombre de critères. En tout cas, une des langues les plus importantes au monde après l'anglais. Je pense la deuxième, effectivement.
Et vous la considérez comme étant un rempart? C'est la question que je posais à ce professeur d'université, à la globalisation.
Écoutez, quand on s'est battu, et quand on se bat toujours pour l'exception culturelle, on se battait pour que la culture ne soit pas considérée comme une marchandise. Parce que c'est justement ces différences. C'est pour ça que j'aime pas entendre parler de rentabilité quand il s'agit de choisir une langue. On choisit pas une langue uniquement pour des raisons économiques. On choisit une langue aussi parce que ça ouvre l'esprit. Donc je crois que là-dessus, il faut pas lâcher prise.
Mais vous entendez les vagues?
Ah oui, c'est beau ça.
Mais je vous ai coupé.
Non.
Je me suis laissé bercer par cette traversée de la Manche, figurez-vous.
Oui. Ah, on va vers l'Angleterre.
On va vers, oui, enfin, si on peut dire, on va en dessous du royaume, on va vers les irréductibles irlandais,
la patrie
de Joyce.
Les îles britanniques, on ouvre des alliances françaises, on en a ouvert une à Cambridge l'année dernière, et on a plusieurs projets de développement dans les îles britanniques. Je ne sais pas si le fait de sortir de l'Europe va les aider à se tourner davantage vers le français. Peut-être, après tout, on peut rêver aussi.
Oui, quand on a été accueilli dans cet agent...
Alliance à Dublin.
Alliance, l'absus est révélateur, parce que je disais en première émission hier que j'avais transformé l'Alliance française en tour opérateur. C'est vrai qu'on va voyager grâce à vous. À Dublin, j'ai eu cette impression-là d'être sur un paquebot avec des choses qui se faisaient, qui tournaient autour de cette énergie que les gens étaient capables de déployer. Et j'aimerais qu'on déploie ensemble, enfin, j'aimerais qu'on écoute ensemble cette expérience-là pour montrer à quel point il y a un rôle au niveau de la culture et de cette offre culturelle sur place, avec la 17e édition du festival irlandais de littérature franco-irlandais. On les écoute. 5-4-3, ouverture du festival. Qu'est-ce qui est à l'affiche ce soir ?
Boire pour se souvenir.
D'Emmanuel Giraud, c'est ça ?
Exactement.
Ils sont en train de se préparer, là ?
Ils sont en train de se préparer, de se mettre dans l'ambiance festive et alcoolique, disons.
Je vais voir ce qui s'y passe, alors. Il est juste bientôt 18h30, c'est-à-dire qu'on attend là les premiers spectateurs. Et évidemment, c'est gratuit. Philippe Milloux, je ne savais pas qu'un directeur de l'Alliance française faisait aussi éclairagiste, comme il s'occupait de la sono. Enfin, ça élargit le panel de la mission.
C'est de l'homme orchestre, tu vois. Là, je suis en train de finir le montage et technique sono et éclairage pour le spectacle de ce soir. Donc, personne ne le sait, mais un directeur d'Alliance, ça fait absolument tout.
Christine Weld. Il va bientôt être l'heure pour tous ces écrivains rassemblés de passer à table.
Encore 10 minutes, un quart d'heure.
L'expression est bien choisie, non ? Passer à table.
Oui, c'est bien vu.
Ça fait 17 ans que ça dure.
C'est la 17e édition, effectivement.
C'est plus qu'une histoire d'amour ?
Ah bah c'est... Oui, c'est une grande histoire d'amour.
Et ça représente quoi, d'ailleurs, quand on y travaille comme ça, vous en charge de la communication à l'Alliance française ?
Des mois de
travail. Des mois de travail, oui.
Ça représente beaucoup de contacts avec beaucoup de gens. Très sympa. Ça représente beaucoup de choses techniques aussi. Ça représente, grosso modo, c'est ça.
Et ça signe un peu une identité pour l'Alliance française.
Ça signe complètement une identité pour l'Alliance française parce que c'est l'événement littéraire avec deux nationalités plus importantes du Dublin. Voilà. Dans la ville du livre. Ça nous permet de faire rayonner aussi la France, qui est très important. C'est notre mission.
Quand je vous disais, Jérôme Clément, que ces hommes et ces femmes, là-bas, travaillant aux alliances, se sentaient missionnés, je ne me trompais pas.
Non.
Il y a une énergie, oui. que vous avez pu vous sonder, parce qu'en tant que président de la Fondation Alliance Française, vous commencez à découvrir depuis 2 ans l'étendue du réseau. Vous voyagez souvent, beaucoup.
Oui, bien sûr. Bah, il faut aller. L'important dans l'Alliance Française, c'est le réseau, quoi. C'est la puissance de tous ces. De toutes ces personnes, hommes et femmes, engagés dans chacun dans leur pays pour se battre au profit de cette belle idée qu'est le français et la culture française. Moi, je pense qu'il faut toujours mettre la barre haut quand on parle à une équipe, quand on parle. Et là, moi, j'ai envie justement de leur dire et de dire à nos auditeurs que c'est très haut. L'enjeu est énorme, quoi. L'enjeu. C'est la diversité de la pensée, la diversité des façons d'être et la façon dont on envisage le monde. On ne peut pas l'envisager uniquement d'une façon unique, sous l'angle de la mondialisation anglo-saxonne, etc. C'est pas possible, ça. Il faut la diversité, il faut la richesse. Et ils ont une mission qui est celle de faire rayonner la culture française. C'est pas un problème uniquement de patriotisme, même si c'est important. C'est aussi un problème de la façon dont on envisage la diversité et la richesse du monde. En respectant, justement, l'autre, en s'intéressant à l'autre, en lui donnant la parole. Et c'est formidable, justement, d'avoir ces échanges On parlait hier d'alliance, du mot d'alliance. C'est des alliances entre chaque pays et une certaine idée de la culture et de la France. Quand j'étais à Arte, je leur parlais de l'Europe. Je leur disais à quel point c'était important ce qu'ils faisaient pour la réconciliation franco-allemande et l'Europe. Aujourd'hui, je pense que là, on est dans un autre terrain, mais qui est la richesse et la diversité du monde. Il faut pas, là-dessus, on transige pas avec ces idées-là. C'est des idées fondamentales. C'est des idées qui donnent un sens à l'activité humaine. C'est des idées qui font vraiment ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire et ce pourquoi on se bat sur cette terre. Donc, pour moi, c'est essentiel. Et si je me donne du mal aujourd'hui pour cette cause, c'est parce qu'elle me paraît être au cœur d'un des problèmes centraux du monde, c'est-à-dire celui de l'identité, de la diversité et de la reconnaissance de l'autre. Et quand on l'oublie, bah, ça donne la xénophobie, ça donne le racisme, ça donne la guerre, ça donne tout ce dont on ne veut pas. Donc c'est, voilà, c'est pas mince, ce sont des valeurs essentielles.
Il y a une ville à Buenos Aires qui, elle aussi, fait partie des pionnières, qui a répondu à l'appel, qui a bâti cette alliance française à peine 10 ans après sa création en 1883. Alors résonnent quelques notes qu'on peut identifier facilement à cette ville, Buenos Aires, de tango. Et là-bas, j'ai rencontré le député des Français à l'étranger de toute la zone Amérique latine et Caraïbes, qui est Sergio Coronado, et qui connaît bien l'importance du réseau que vous présidez, et justement, qui est avec moi, dans ce quartier-là branché de Buenos Aires, commençait à réfléchir sur le futur aussi qu'il faut envisager, comme vous le faites actuellement, Jérôme Clément. On l'écoute, Sergio Coronado.
On est à Buenos Aires, en fait, dans le quartier branché de Palermo, où le dimanche, les familles sortent se promener. Voilà, et puis il y a d'autres parties de Buenos Aires aussi qui sont similaires, Saint-Elmo, voilà. Donc c'est une ville très agréable, qui est une ville où on peut marcher, où on peut s'asseoir, où l'on vit en terrasse également. C'est une ville très européenne, à vrai dire, Buenos Aires.
Alors, Sergio Coronado, vous qui les connaissez par cœur, ces alliances françaises, vous avez, à la différence des Français en Hexagone, conscience de leur rôle ici, et peut-être aussi conscience de ce qu'il faudrait encore parfaire pour rendre ce soft power plus efficace.
L'un des atouts de la France dans le monde, c'est justement cette diplomatie d'influence culturelle, linguistique, une diplomatie de la langue, du français, qui est certes en recul, mais qui sera une langue globale dans les décennies qui viennent. C'est aussi un réseau qui n'en est pas vraiment un et qui devrait en fait devenir un vrai réseau global, puisque ce sont des centaines d'alliances, mais qui ne fonctionnent pas tout à fait en réseau, qui fonctionnent comme des entités locales, avec des délégués généraux dans les grands pays, et puis une petite fondation à Paris qui essaye de donner de la cohérence à ce maillage global. Il y a des défis, et ces défis, on commence à les identifier depuis un certain nombre d'années, de ne pas passer à côté de la révolution numérique, à la fois permettre une plus grande influence par la mise en place de réseaux communs, l'utilisation des réseaux sociaux, un site internet intégré, des banques de données, notamment je crois qu'on pourrait avoir la plus belle banque de données d'anciens élèves dans le monde, des gens qui occupent tous des places d'une très grande influence dans le monde économique, dans le monde politique, dans le monde de la culture, dans le monde scientifique. Des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes qui ont appris le français et qui sont de fait aujourd'hui des ambassadeurs de la France, sans que la France en ait particulièrement conscience. Et puis le défi également de l'enseignement à distance par le biais du e-learning. Je crois que c'est aussi un défi. On est dans des mégalopoles où parfois il n'est pas aisé de faire une heure et demie de transport pour se rendre à une heure ou deux heures de cours. Et donc c'est aussi une manière de continuer à rayonner, à avoir de l'influence, à former, à apprendre et à enseigner le français, et puis à diffuser la culture française dans le monde.
Alors, Jérôme Clément, vous l'écoutiez avec intérêt, Sergio oui. Coronado. Et effectivement, tout, je sais pas, j'imagine d'ailleurs que tout ce qui vient d'être énoncé là, vous en avez une conscience aiguë, que mm-hmm. tout ça a un nom, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce plan 2020. Mm-hmm. À l'horizon 2020, que deviendra voilà. l'Alliance française, qu'il faut transformer. Voilà. Et que vous allez en parler le 19 juillet, là, très vite, avec oui. l'ensemble des délégués généraux qui se réunissent
oui.
chez vous.
Oui, absolument. Bah, on a avec Bertrand Comelin et toute l'équipe de la Fondation, qui est en train d'être renouvelé largement d'ailleurs et augmenté, réfléchi à un plan qu'on a appelé Alliance 2020. Il faut se fixer des objectifs à moyen terme, donc ça nous paraît raisonnable, 4 ans, pour justement, sur le numérique, faire tout le travail qui a été évoqué par Serge Coronado. Il y a énormément à faire dans le domaine, on en parlait hier, de la communication, de la notoriété, dans la recherche de fonds aussi. On a besoin d'avoir des moyens supplémentaires pour développer les alliances et pour les moderniser. Bon, il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine des partenariats, dans le domaine du marketing. Et il y a tout un travail qui est entrepris autour du théâtre pour le valoriser, le remettre à neuf et en faire un lieu de rayonnement et aussi de ressources économiques.
Il y a des idées géniales comme enseigner le français aux réfugiés en ce moment par le oui, biais des alliances présentes alors, sur le territoire national.
Oui, on oublie, je l'ai mentionné à quelques reprises, mais les alliances françaises de France, oui. il y en a 25, il y a plusieurs créations en cours, peuvent jouer un rôle très important vis-à-vis des immigrants, de tous ces problèmes justement de ces gens qui arrivent et qui ne parlent pas la langue. Il faut les aider et il y a une concurrence aiguë dans l'apprentissage de la langue. C'est devenu aussi un marché et il faut faire très attention à ce que la qualité, l'exigence soit maintenue. Et évidemment, l'Alliance française a un rôle fondamental à jouer pour ça.
Donc ne pas rater la révolution numérique.
Ne pas rater la révolution numérique, moderniser la communication, la recherche de fonds, asseoir le patrimoine, former les professeurs, développer tout ce qui... évidemment permet d'enrichir sur le plan humain. Il y a énormément à faire. Donc vous voyez, c'est un gros travail qu'on ne peut faire d'ailleurs qu'ensemble. Et il faut que toutes
les alliances françaises du monde... Donc l'idée de réseau doit être consolidée.
Oui, il faut que les alliances françaises du monde comprennent que c'est leur intérêt, c'est notre intérêt à tous de travailler en réseau et d'accroître les moyens collectifs de travail. La Fondation est au service de toutes ces alliances. Il faut que la Fondation soit forte pour justement pouvoir mieux servir cette cause et ce réseau commun. Voilà ce qu'on entreprend en ce moment, mais avec un éparpillement dans le monde aussi vaste, je dirais de Vanuatu à Reykjavik, d'Ushuaïa à Irkoutsk, il y a beaucoup à faire. Heureusement, le numérique offre des opportunités inouïes de rencontres et d'échanges qu'on n'avait pas auparavant. C'est ça qui est en jeu, c'est l'avenir et c'est la modernisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette modernisation, elle a pour objectif de conserver une place et un rôle clé dans le 21e siècle pour la langue et la culture française.
J'ai envie de vous faire une petite surprise, Jérôme Clément, pour terminer notre premier week-end, et ben oui, de cette série à la découverte de l'institution que vous présidez. Cette surprise nous conduit dans la 4e ville que l'on va visiter grâce à l'Alliance. Ce sera le 23 et le 24 juillet, j'aime bien être précis quand même. Elle est au bord de la mer Noire, elle est mythique, c'est Odessa, une destination qui vous tient particulièrement à cœur, et on va comprendre pourquoi. On est où là, Vladislav ?
On est à côté du centre juif, centre culturel juif, qui a été construit à Odessa il y a 7 ans à peu près.
On a rendez-vous avec qui ?
On a rendez-vous avec Olesia.
Et c'est Olesia, je crois, qui a accueilli le fils de Jérôme Clément, qui est venu lui aussi faire un travail de mémoire ici.
Oui, c'est un peu un hasard parce que je me souviens que j'ai téléphoné à Olesia il y a quelques mois. Et elle me disait qu'elle elle part dans une ville balta, qui n'est pas loin d'Odessa, avec un Français pour recherche de ses racines. Et moi, je ne savais pas complètement qui était avec elle. Et donc, c'est maintenant avec votre visite que je découvre un peu qui c'était. Et voilà, elle va nous en dire plus, je pense, maintenant.
On rentre alors.
Hi.
Bonjour.
Bonjour.
Ah, il y a quand même quelques petits mots de français qui surgissent comme ça.
Oui, c'est ça.
Цветущий вакансия город.
Olesia, vous vous rappelez la première chose que vous aurez, que vous a demandé Julien?
Julien попросил помочь ему, возможно, добраться до Балты.
Il m'a demandé un soutien pour venir à la ville Balta. C'est une région d'Odessa.
Et c'est où?
Это Одесская область, и, собственно, оттуда пошел род Жюльена, его семьи, его прадеда.
C'est la région d'Odessa, et c'est de cette ville qui commence l'histoire de la famille de Julien.
Si je te donne pas tout de suite.
On vient d'entendre Jérôme Clément, une bribe de la bande-annonce du film d'Amos Gitaï, sorti en 2008. Jeanne Moreau, dans le rôle de votre mère, Hippolyte Girardot, dans le vôtre. C'était une adaptation de ce récit, livré 3 ans plus tôt, chez Grasset, plus tard, tu comprendras. Une adaptation cinématographique qui donne à lui aussi un autre récit. Maintenant, je sais, c'est une histoire familiale, l'histoire d'un secret qu'il est impossible de résumer ici en si peu de temps. On le comprend aisément. Mais tentez juste, Jérôme Clément, de faire le pont entre cette ville, Odessa, qu'on va visiter, nous, ce mois-ci, grâce à vous, en ayant un peu votre saga en tête.
Bah, c'est très émouvant pour moi d'entendre ces extraits. Et évidemment, c'est une surprise que vous m'avez réservée, mais mes grands-parents maternels sont venus d'Odessa. Ma mère, mes grands-parents étaient juifs et en fait, ils étaient originaires de Balta. Et je l'ai découvert précisément quand mon fils y est allé il y a quelques mois pour savoir exactement. Il a retrouvé les registres à la synagogue où sur lequel était inscrit le nom de mon grand-père. Mes grands-parents ont quitté l'Odessa et l'Ukraine, la Russie, au début du XXe siècle, et ils sont installés en France, où ils ont vécu heureux. Ils ont été naturalisés français par d'ailleurs un décret de Paul Doumer, qui a ensuite été président de l'Alliance française. Et puis malheureusement, ils ont été arrêtés en 1944 et ils sont morts à Auschwitz. Donc voilà, c'est cette histoire que je raconte dans le livre « Histoire cachée ». Ma mère ne l'avait jamais dit, ou en tout cas peu dit, et en tout cas je ne le savais pas bien, je n'avais pas bien compris tout ça, et après sa mort j'ai fait tout ce travail qui se poursuit maintenant, effectivement, par l'intermédiaire de mon fils, pour connaître un peu l'histoire de cette famille. Et voilà, alors le livre que j'ai écrit a donné lieu à un film réalisé par Amos Gitaï, dans lequel Jeanne Moreau joue le rôle de ma mère et Hippolyte Girardot le mien. Et voilà, donc ça a été une tranche de ma vie extrêmement important de redécouvrir ces racines et cette histoire dont j'ai fait un livre, et ça me touche évidemment beaucoup. C'est l'Ukraine et la Russie restent pour moi une partie de mon histoire, même si je ne suis pas né là-bas et ma mère non plus d'ailleurs, mais on avait cette histoire-là dans notre famille.
Et dans ce pays aujourd'hui déchiré par une guerre à l'Est, en Ukraine, la situation des alliances françaises est redoutablement compliquée. Celle de Crimée, on ne connaît pas tout à fait son sort. Les deux à l'Est, Donetsk et Lubiansk, ont fermé. Donc on est dans un jeu extrêmement délicat en Ukraine, Jérôme Clément.
Oui, alors je suis allé en Ukraine également l'année dernière pour ouvrir une alliance à Kharkov,
ouais,
Kharkiv, qui est au nord-est, c'est-à-dire à 15 kilomètres de la frontière russe, et c'était un acte politique. Là, il s'agissait de montrer que, justement, la vie continuait, les liens avec les Occidentaux, et en particulier la France, dans le cas particulier, continuaient. Donc c'est un pays dans lequel il est difficile, mais il y a en Ukraine 9 alliances françaises, je crois, qui font du bon travail, mais qui ont beaucoup de difficultés. Celle de Donetsk, qui a été obligée de fermer à cause de la guerre, celles de les deux de Crimée ont fermé également. On ne sait plus très bien quelle statue elles ont. J'ai rencontré les directrices qui ont fait, je ne sais pas, presque 24 heures de voyage pour venir me retrouver à Kiev pour pouvoir être réconfortées, soutenues et savoir comment on allait faire. Voilà, c'est toujours ça. C'est ça aussi, l'Alliance française.
C'est ça aussi.
Terre d'Alliance. France Inter.
Terre d'Alliance.
Et c'est évidemment ça qu'on découvrira pendant tout cet été, ces 8 week-ends qui vont suivre. Là, cette émission touche à sa fin. Il me reste bien sûr à vous remercier, Jérôme Clément, d'avoir ouvert cette série et en donné l'impulsion, comme ça, du départ. Merci à vous.
Merci à vous, au contraire, de m'avoir accueilli.
Et le week-end prochain, donc, je l'ai, je crois, dit, on sera aux mêmes heures, entre 16h et 17h, samedi et dimanche, à Pondichéry, dans l'une de ces alliances pionnières qu'on a évoquées. Comme on l'a fait hier, remercions en tout premier lieu Alina, l'Institut National Audiovisuel, Marthe, Laurent, Clotilde Fillot. Vous pouvez aussi y retrouver toutes les informations, la discographie, la bibliographie sur notre site franceinter.fr à la page de l'émission Terre d'Alliance. Une émission que vous pouvez réécouter, télécharger aussi. N'oubliez pas notre page Facebook et notre compte Twitter, hashtag Terre d'Alliance. Merci à notre community manager, Léa Minot, assistée de notre stagiaire, Rachel Chiche. Et toutes les semaines, elles vous livreront un bonus multimédia assez étonnant. Programmation musicale, Thierry Dupin. Derrière la console de diffusion, Pauline Laverdure. Aujourd'hui, une série réalisée par Bertrand Chaumeton, proposée par Alexandre Hérault, avec la Fondation Alliance Française.